Seigneur a guidé les choses. On a parlé d'armée. On a chanté qu'on était l'armée. On a eu des témoignages.
Et ce matin, je veux parler de porte. Je vais simplement revenir sur l'armée. Nous sommes l'armée du roi, du grand roi. Celui qui est devant nous, c'est notre Seigneur, Yeshua. Jésus, notre Seigneur. Une armée s'est faite d'un soldat prêt à combattre, prêt aussi à donner sa vie, et il a été le premier exemple. Alors ce matin, on était tout feu, tout flamme, bien chaud pour partir. Et quelle est notre position? C'est pour ça que je vais vous parler de porte ce matin. Alors, nous allons commencer par Jean 10, verset 7. Puisque je parle de Jésus, Jésus a dit qu'il était la porte. Quelle porte il était? De quel endroit? Alors, Évangile de Jean, verset chapitre 10 et verset 7. Je vais lire ce petit passage. Jésus leur dit, tout le monde a sa Bible, tout le monde est prêt à lire. Bon, c'est très bien. Pour avoir sa Bible, un soldat sans Bible, hein, c'est... C'est une partie de nos armes aussi. Hein. Parce que dans la parole de Dieu, est inspirée de Dieu, il y a des proclamations. Vous savez ce que font les musulmans à chaque fois qu'il y a une prière? Le temps, les heures de la prière. Ils montent en haut de son minaret et ils commencent à proclamer. Hein. Il proclame. Hein. Les versets là, du Coran qui proclament. Eux, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe dans la proclamation. Ça, c'est un aparté. La parole de Dieu est pleine de promesses qu'il faut proclamer. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus à moi, avant moi, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous voyez qu'il parle d'une bergerie et après il parle d'une porte. Et il dit très simplement, celui qui passe par moi, il est sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La porte, donc, dans la parole de Dieu, a une signification et c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais aller ce matin. Je ne vais pas prêcher trop longtemps, je vais essayer. Simplement, je ne veux pas vous accuser dans les paroles que je vais vous dire. Je suis comme vous, à la même enseigne, devant Dieu, devant le trône de Dieu, je suis exactement au même niveau que vous. Ce que je vais pouvoir vous poser comme question, c'est au Seigneur que vous allez y répondre. Parce que nous allons parler par le biais de ces portes, de notre position. On a parlé d'armée ce matin, on a chanté, on était l'armée, on n'est pas tous. Dans une armée, il y a des soldats qui sont à la radio, d'autres qui sont dans les chars, d'autres qui sont dans le commandement, d'autres qui sont... Mais si je veux me mettre un petit peu, vous savez, dans ce que dit l'Ancien Testament, si vous lisez un petit peu les guerres de conquête, il y avait dans l'armée un groupe d'élite qui était des loueurs. C'était eux qui étaient devant, hein, dans la louange. Et le témoignage de notre sœur ce matin m'a frappé dans ce sens-là. La louange est quelque chose de particulier pour Dieu. Quand vous passez du temps dans la louange et dans la prière, c'est particulier. Je vous dis franchement, c'est particulier. Si Dieu vous pousse à le faire, faites-le. Si le Saint-Esprit vous pousse à le faire, faites-le. À préparez-vous à cela. Parce qu'il y a des choses qui bougent énormément. Comme dans la proclamation, ça fait partie de la louange. Donc, Jésus nous dit ce matin qu'il est la porte. Il a tenu cette position de porte. Et nous allons aller, je vais vous lire quelques passages. En fait, je vais vous faire un... J'ai pris... Je ne vous cache pas, j'ai tapé sur online, la Bible online, j'ai tapé le mot porte, j'ai dit donne-moi toutes les portes. Et il m'a donné toutes les portes. Alors, je ne les ai pas toutes prises parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Quand vous pensez à Ézéchiel, où on mesure et on place des portes dans le nouveau temple, je ne vous ai pas donné ces passages-là. On ne va pas prendre cela. Mais je vais prendre quelques portes et leur donner. Vous allez voir que dans le texte, elles amènent automatiquement des adjectifs qui nous permettent aussi à nous de nous positionner. Premier endroit, Genèse 22, 17. C'est marrant qu'il soit au début de la Bible, ce verset-là, parce qu'il pourrait être aussi à la fin de la Bible. Mais il est aussi en partie à la fin de la Bible d'une autre façon. Genèse 22, 17. Alors, dans ce que je vais lire comme verset, il y a différentes traductions. C'est fait exprès, ça permet d'avoir des fois plus de détails. Genèse 22, il est dit, « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Une porte, porte de ses ennemis. Ce verset est redonné à la descendance d'Abraham. Donc c'est Abraham qui s'est donné. Hein. À Rebecca, il est donné le même verset, Genèse 24, 60. Il bénit Rebecca et lui dit, « À notre sœur, puisque tu... Puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Posséder la porte de ses ennemis, c'était un contrôle à l'époque. On contrôlait si on avait attrapé militairement la porte, puisque les villes étaient à l'intérieur de murailles, les portes pour rentrer dans la ville, si tu les possédais, tu maîtrisais ton ennemi. Donc là, on va rentrer dans la symbolique un petit peu. Abraham reçoit ça de la part de Dieu. Je fais juste un petit peu le rapport qu'il est aussi le père de la foi. Et je tire ce verset à nous en disant, en Jésus-Christ, nous avons la porte de notre ennemi. C'est une promesse que Dieu donne à Abraham. Hein. Abraham est le père des Juifs. Peuple d'Israël, des Juifs, et Dieu leur lui dit, il le répète à Rebecca, il est aussi le père de la foi. Nous avons, nous, dans notre position là, en Jésus, qui est la porte, nous contrôlons la porte de notre ennemi. C'est un premier point. On continue. Je vais faire ça tout le long, hein. On va traverser un petit peu la Bible, comme ça on va retirer des significations de porte. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les... Je vous laisse chercher si vous voulez chercher. Vous notez. Exode 12, 7. Là aussi, encore. Vous allez voir comment c'est très étonnant parce que ces portes-là, ça revient souvent sur la signification et sur... On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Je vous donne juste ce verset comme ça. Ça vous fait appel à quoi? À la Pâque. À Pessah. Dieu avait dit, vous prendrez le sang de l'agneau, vous allez tuer, vous allez mettre sur les linteaux de votre porte. Jésus a dit, je suis la porte. Et cette porte, nous le savons tous, qu'elle est imprégnée de ce sang. Nous ne pouvons pas traverser par cette porte s'il n'y avait pas eu ce sang sur cette porte. Vous voyez déjà la signification de la porte. C'est un état. Une porte, ça s'ouvre de l'intérieur, de l'extérieur, ça se tient fermé. C'est posé sur des gonds. Donc, ça signifie quelque part une position. Dans une maison, si on met une porte, elle sert à quelque chose. Elle n'est pas là pour faire joli. Elle sert à passer d'une pièce à une autre. Elle sert à délimiter une pièce. Et nous allons voir que c'est quelque chose qui est repris. Exode 27, 16. Là, on vient dans le parvis du temple. Alors, pas le temple construit de pierre, puisqu'on est dans l'Exode, mais celui qui était promené dans le désert. À l'entrée du parvis, c'est-à-dire à l'entrée de la première entrée, il y avait quatre colonnes avec des tissus tendus. Par la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors en ouvrage de broderie avec quatre colonnes et leurs quatre bases. Séparation. On savait que quand on rentrait par cette porte-là, on entrait dans le parvis, on quittait le monde séculier, le monde où on vivait, pour entrer dans un monde où l'Éternel se trouvait, où on commençait à s'examiner, où on allait se laver. Donc il y a quelque chose, là, il y a un positionnement, une porte qui sépare. Est-ce que dans notre vie, nous avons commencé, c'est mes questions que je pose, hein. Je ne vous demande pas d'y répondre, chacun prend ce que le Seigneur lui met dans son cœur, mais est-ce que dans notre vie, nous avons dans notre temple, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, cette porte qui est une porte en tissu, qui est souple, donc on a la possibilité de la bouger comme on a envie, comprenez bien, hein, mais est-ce qu'elle est là et qu'elle est bien, elle le sépare bien, ce qui est du monde extérieur et de ce qui est du monde de Dieu. On dirait ça du monde sanctifié, mis à part, ou du monde profane. La question, je vous la pose. Je me la pose à moi-même aussi. Quelle est votre position? Vous voulez partir au combat? Comment vous y allez? De quelle façon? Quelle est votre position? Deutéronome 22, 17. Nous allons voir que les portes étaient un endroit qui était public en Israël, dans les villes. Donc, il se passait, c'était un point où on ramenait les choses importantes pour témoigner. Donc, elle a un regard. Cette porte-là, les portes ont un regard. Les autres le voient. Les autres le voient. Votre porte, ce que vous êtes, vous, en tant que porte. Les autres le voient. Deutéronome 22, 15. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens à la porte de la ville. C'était un cas où on accusait qu'une, lors d'un mariage, que la femme ait d'abord couché avec quelqu'un d'autre. Donc on demandait de justifier. Donc c'est une porte de justification. Comment vous êtes justifié? Par quoi vous êtes justifié? C'est ce que moi j'ai retenu, c'est la justification qu'il y a dans ce passage. Justifié. Est-ce que vous êtes vraiment justifié par le sang de Christ? Est-ce que dans votre porte, vous êtes aussi juste quand vous avez des affaires à traiter, qu'on vient vous voir dans vos familles, dans votre lieu de travail? Comment vous êtes? Je me pose aussi la question, quel est votre état? C'est un peu un état des lieux, on va faire ce matin. Deutéronome 22, 24. C'est encore sur l'adultère. Vous les ferez sortir tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et vous mourront la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir abusé de la femme de son prochain. Tu lui élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. La porte, elle doit être une séparation. Là, on vient parler à la porte. On ne laissait pas laisser le péché dans la ville. Le péché qui était fait par l'adultère, on le prenait, on lapidait à la porte. À la porte, tout le monde voyait ce qui se passait. Mais aussi, c'était une façon de dire le péché ne rentre pas dans la ville. Notre position de cœur, il est comment ? Vis-à-vis de tout ce qui est les choses sexuelles aussi, puisque là on parle de choses sexuelles, quelle est notre position? Je vous la pose la question. Est-ce que votre porte est bien fermée et bien droite selon la pensée de Dieu? On arrive à Ruth 3, verset 11. Celui-là, il est sympa. Ce verset-là est sympa. Jusque-là, ça a l'air d'être un peu pesant. Mais Ruth, c'est très intéressant aussi. Je vous rappelle, Ruth était moabite. Elle était mariée, elle était veuve et elle a suivi sa belle-mère. Elle est retournée en Israël. Et là, en Israël, il y a eu un problème. Il fallait subvenir à ses besoins. Ruth, verset 3, verset 11, chapitre 3, verset 11. « Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Intègre, l'intégrité de la porte que nous pouvons être. Est-ce que nous sommes intègres? Moi, j'ai mis le synonyme intègre dans cette porte-là. Ce que nous sommes, est-ce que nous sommes le reflet, comme de Ruth, qui était une femme vertueuse? Elle a appliqué ce que la loi demandait de faire. Ruth 4, verset 1. Là, c'est l'histoire de Boaz, donc de son futur mari. Si je vous raconte un petit peu l'histoire de Ruth, pour que vous compreniez ce qui s'est passé à ce moment-là. Le beau-père de Ruth, donc le mari de Noémie, avait vendu ses parts à quelqu'un de la famille. Quand il revient, il n'y a plus rien. Et on cherche à racheter les parts. Mais en Israël, pour racheter les parts, il y avait des droits de rachat. Et sa belle-mère, elle connaît bien la loi. Et elle lui dit, va te coucher près de Boaz. Et tu feras comprendre que tu as un droit de rachat et que si elle te rachète, s'il veut racheter tes parts, à ce moment-là, il sera obligé de te prendre comme femme. C'était cela en Israël à cette époque-là. Et Boaz le sait très bien. Et quand Boaz voit que Ruth s'est couchée à ses pieds, il a compris. Il a compris cette coutume-là. Mais Boaz ne se faufile pas. Il ne dit pas, je veux prendre la femme, je ne rachète pas le terrain et je m'en vais. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais voir qui c'est qui a le droit de rachat en Israël sur ce terrain-là qui lui appartient. Et qu'est-ce qu'il fait? Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Donc cette porte-là encore. Donc il va monter, il arrive dans la ville, il s'arrête. Il se dit, là, il y a tout le monde qui va passer. Moi, j'ai une affaire à traiter importante. Une femme s'est couchée à mes pieds cette nuit. Là, j'ai un droit de rachat sur elle. Je veux bien l'épouser, mais j'ai un droit de rachat. Mais avant moi, il y a quelqu'un d'autre qui a un droit. Il faut que j'avertisse cette personne-là. Il ne fait pas les choses par derrière. Il monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici. Toi, un tel. » Et il s'approcha et il s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyons-nous. » Et ils s'assirent et ils conclurent l'affaire. Si vous continuez le texte, vous verrez qu'il va lui poser la question. « Est-ce que tu veux bien racheter les terres ?» Il dit « Oui. » Puis Boaz lui dit, « Mais attention, si tu rachètes les terres, il faut que tu épouses, tu prennes comme femme Ruth. » Et l'homme dit, « Non, ça ne m'intéresse pas. » Mais Boaz ne fait pas ça derrière son dos. Tu aurais pu dire de toute façon, il est déjà marié. Non, non, ne dis pas ça. L'intégrité qui se passe à cette porte-là et la justice qui se passe à cette porte. Pratiquons-nous la justice, je vous repose la question. Notre porte que nous sommes, quand nous venons nous voir pour traiter des affaires, chez nous, dans nos familles, je le répète, comment est notre cœur? Est-il juste? Est-il prêt à appliquer les commandements de Dieu, les principes de Dieu? C'est la question que nous pose cette porte-là. 2 Samuel 15, verset 2. On va faire la Bible comme ça. Si je vous ennuie, vous me dites, on s'arrête. Mais vous allez voir, c'est marrant, c'est assez... 2 Samuel 15, verset 2. C'est l'histoire d'Absalom. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte de la ville. Et chaque fois que quelqu'un avait un litige, il se rendait auprès du roi pour obtenir un jugement. Absalom l'interpellait et lui disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël. Je vous explique l'histoire. Absalom avait décidé de détruire son père, qui était David. Donc il s'était mis à l'entrée d'une porte. Et tous ceux qui venaient être jugés à Jérusalem, il leur disait, allez-y pas, mon père ne vous fera pas justice. Venez avec moi, je vais vous faire justice. Là, nous voyons que c'est une porte qui est utilisée pour comploter. Compromis, je l'ai nommé, moi, porte de la compromission. Est-ce que vous êtes dans des compromis? Attention aux compromis. Quel est le but que nous atteignons dans nos positions? Regardons bien. Néhémie 8, je vais aller un petit peu plus vite. Lecture Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. On rassemble là, Néhémie rassemble tout le peuple, on vient de redécouvrir la loi et on lit la loi. Quelle est notre position face à la parole de Dieu? Quelle est notre position? Avons-nous mis la parole de Dieu dans une poche et puis nous continuons notre vie comme ça? Ou est-ce que nous la lisons? Nous la pratiquons? Nous l'appliquons? C'est notre position. Quelle est votre position vis-à-vis de cela? Dans Esther, il est parlé aussi de la porte, de plusieurs portes où Mardoché va rester devant la porte du roi. Il va se camper là. Il va se positionner là. Il va écouter tout ce qui se passe à cette porte. Le complot, il va le dire. Mais entre le temps que ça se réalise, il va être maltraité. Mais il va tenir sa position dans cette porte. Est-ce que nous tenons notre position là où Dieu nous a placés, dans le destin dans lequel Dieu nous a placés? Je vous pose la question. Je vous en pose des questions ce matin. Hein. C'est Esther 2, verset 19. On voit que plusieurs fois, Mardoché vient à la porte du roi. Dans les psaumes, David nous parle et d'autres nous parlent des portes. « Ceux qui sont assis à la porte de la ville bavardent contre moi et les buveurs d'alcool me mettent en chanson. » J'avais envie de dire à votre porte de quelle langue elle parle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle est médisante? Est-ce que ma porte est médisante? De quoi je reparle? Moi, je vous dis franchement, il y a eu des fois, le Seigneur m'a repris clairement hein, au travail. Hein. Si je peux donner quelques témoignages, tu viens, tu te mets dans les dialogues avec les autres et puis tu commences à parler comme nous. Le Seigneur dit, mais t'écoutes ce que ta bouche dit. Est-ce que tu écoutes ce que ta bouche dit? Ah, tu dis, ah Seigneur, ouais. Après, je comprends pourquoi je me retrouve dans des problèmes. Parce que je commence à parler comme les autres. Attention, que notre porte soit une porte avec une parole qui est vraie, qui reflète ce que nous sommes au Christ. Ce ne soit pas des bavardages de buveurs ni de personnes qui ne pensent qu'à descendre l'autre. Dans les Proverbes, c'est le psaume 69, verset 12. Dans les Proverbes 17, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. C'est lui qui élève sa porte, cherche la ruine. Je ne vous donnerai pas d'explication. Je pense qu'elle est claire. L'orgueil. Attention. Attention. Celui qui aime les querelles aime le péché. Attention à ceux qui se querellent. L'autre. Un autre proverbe. Celui-là est aussi connu. 26, 14. La porte tourne sur ses gonds, les paresseux sur son lit. Ah. Une porte, vous pouvez l'ouvrir comme ça, la fermer, l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer. On ne sait jamais la position dans laquelle elle est. Hein. Elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Elle a des gonds, donc elle peut s'ouvrir, se fermer. Mais rien qui se produit, hein. Elle n'a pas de position. Si votre porte est tout le temps en train de faire ça, elle indique quoi? Elle ferme, elle ne ferme pas, elle indique quoi? On ne sait pas, on peut rentrer, il suffit, hop! Elle est ouverte, je rentre. C'est un petit peu ce que dit le passage de Proverbe. Attention, notre porte, elle est comment? À des moments, elle doit être ouverte, à des moments, elle doit être fermée, selon ce que Dieu veut placer dans nos vies, à des moments bien précis. Ésaïe, porte, gémis. Ésaïe 14, verset 31. Porte, gémis, ville, lamente-toi. Tremble, pays tout entier des Philistins. Car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés. Porte, gémis, elle exprime. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous exprimons? J'ai pris ce passage pour l'expression que nous pouvons avoir en tant que porte. Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à genoux et à pleurer devant Dieu? À dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe derrière la porte. Mes ennemis viennent me taper, me taper, me taper. Moi, je me retiens, mais je ne sais pas pour quelle raison. Que dois-je faire? Dois-je tenir ma position? Dois-je avancer? Dois-je ouvrir? Que dois-je faire? C'est notre position là. Êtes-nous prêts à gémir? Ésaïe 57, 8. Alors celui-là, il n'est pas marrant. Tu as attaché ton faux Je le lis celui-là, je l'ai pris dans une traduction que vous n'avez pas dans votre Bible, parce que elle est tellement, la traduction qu'on a dans, notre, dans nos Bibles, comme ça, là, elle est tellement, on va dire, diluée. Diluée. Édulcorée. Que ça perd même le sens de la phrase. Donc j'ai préféré la prendre. Tu as attaché ton fétiche derrière le montant de ta porte. C'est dans Ésaïe, hein. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, hein. Tu as attaché ton fétiche derrière le montant de ta porte en te cachant de moi. Tu as enlevé tes vêtements. Tu montes, sur ton immense lit. Tu as passé un accord avantageux avec tes amants. Tu aimes coucher avec eux et regarder la chose. Tout simplement, c'est la prostitution religieuse. Attention, quelle position religieuse nous avons? Quelle position notre porte a? Est-ce que nous sommes là, on vient le dimanche matin, là, on est tout feu? Quand on rentre dans notre maison, derrière la porte, il y a des choses qui sont accrochées. D'autres choses qu'on croit, superstitions et autres. Quelle est notre position? Est-ce que derrière notre porte, de chez nous, nous vivons la même chose que quand nous sommes dans l'église? C'est la question. Je l'ai baptisé, moi, religiosité. Le peuple d'Israël était le roi, les rois de la religiosité. Et c'est ce que Dieu leur reproche. Clairement. Vraiment clairement. Avec des mots violents, puisqu'il parle d'adultère, de tromperie, de coucher avec un tel ou un tel. Il prend des choses qui sont très très fortes. Nous quittons l'Ancien Testament, ou plutôt l'Ancienne Alliance, on va être sur la Nouvelle Alliance. Matthieu, et là vous allez voir que le discours est différent. Il est moins accusateur, mais il demande quand même à se positionner. Matthieu 25, verset 10. Vous connaissez Matthieu 25, 10 ? C'est les dix vierges. Il est parlé de porte, là. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. État des lieux. J'ai marqué état des lieux. Quelle est votre position vis-à-vis de l'époux qui vient ? Êtes-vous ceux qui entretiennent une relation avec lui? Êtes-vous celui qui est celle qui a toujours de l'huile? Parce que là, ça va, le couperet va tomber quand le marié va venir. Si vous êtes parti chercher ce qui vous manquait pour voir le chemin, vous allez venir avec la lumière et taper, ça sera trop tard, la porte sera fermée. Et là, la porte, elle se ferme. Vous ne pouvez pas rentrer par cette porte-là. Le temps est passé. Soyons toujours prêts à recevoir le Jésus comme s'il venait demain. Que notre état là, de cœur de porte que nous sommes, soit dans cet état-là. Luc 13, verset 25. C'est un petit peu pareil. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous venez. » Notre position, je le répète, si nous sommes en Christ, nous ne craignons rien. Cette porte ne se fermera pas. Si nous restons dans notre position en Christ, en enfant de Dieu, rien ne pourra fermer cette porte. Acte 14, 27. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Notre porte de la foi, elle est comment? Est-ce que nous continuons à croire aux miracles, aux prophéties? Est-ce que notre cœur, là, est encore en train, est capable de croire aux promesses que Dieu a laissées dans sa parole, aux promesses qu'il nous dit? Quelle est notre foi? Notre porte porte-t-il cette foi? Il manifestera-t-il? En Corinthiens 16, verset 9. Car une porte s'est ouverte toute grande, prometteuse, et les adversaires sont nombreux. Ça, c'est pour Emmanuel. Les portes peuvent s'ouvrir, mais l'adversité est là. Donc, moi, j'ai été intitulé « Notre obéissance face à l'adversité ». Quelle est notre obéissance face à l'adversité? On a trop tendance à fermer des portes qui sont devant nous, ou nos propres portes, en disant « Il y a de l'adversité ». C'est que Dieu ne me veut pas dans l'histoire. Attention, asseyons-nous, prions. Demandons au Seigneur. Parce que l'adversité, c'est aussi le signe de dire qu'on dérange l'ennemi. Quand vous commencez à déranger l'ennemi, il va commencer à venir à vous taper, à vous faire comprendre que ce que vous faites, ça ne lui convient pas. Donc attention, quelle est notre position à ce moment-là ? Hébreux 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville. Il a été crucifié à la porte, en dehors de la porte de la ville. Si on veut rentrer dans la symbolique, il a été isolé, mis à part. C'est simplement qu'il a voulu être dans la parfaite harmonie de ce que Dieu avait mis comme plan au peuple d'Israël. Je m'explique. Quand on sacrifiait au temps de Moïse, au temps de l'Ancien Testament, on prenait certaines parties, on les brûlait. Ce qui n'était plus valable pour le sacrifice était brûlé en dehors du camp. En dehors du camp. Jésus a été fait, ça. C'est pour ça qu'il n'a pas été crucifié dans la ville, il n'a pas été mis à mort dans la ville. Il a été mis à mort en dehors de la ville. Parce qu'il a porté toutes les imperfections, tout ce que nous étions, tout le péché qu'il a porté, ça ne pouvait pas être dans la ville. C'est pour ça qu'il a été mis. Et nous ? Comment sommes-nous ? Sommes-nous prêts à être une porte isolée, comme il a été lui isolé ? Parce que Dieu nous le demande. Il fait passer par des déserts, il fait passer par des moments particuliers pour que nous puissions comprendre ce que lui, il a pu vivre et ce qu'il a amené. Je vous rappelle que nous sommes appelés à être ses disciples, à être comme le maître. Jacques 5, verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » La fin des temps arrive. Quand Jésus va revenir, c'est pour juger. Le temps de grâce sera terminé. C'est ce que veut dire ce verset aussi. Alors nous ne prenons pas nos portes pour juger les autres. Disons pas, oula, j'ai une belle porte. Elle est comme ceci, elle est comme cela. Nous n'utilisons pas en tant que juge. Ça ne nous appartient pas, le jugement. Le jugement appartient à Dieu. Et là, je vais finir avec Apocalypse. Apocalypse 21, 21. Chapitre 21 nous parle de la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Puisque le chapitre commence, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et on va vers le verset 21, donc, tout est bien décortiqué. Et nous arrivons que dans la construction de cette Jérusalem, qui est très symbolique puisqu'elle représente à la fois une personne et des objets. Donc elle est visualisée d'une façon objet, mais elle représente des personnes. Là, dans le 21-21, nous voyons qu'il est dit « Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. » Donc c'était des portes. 12 portes. Un peu plus loin, il est dit que ce sont les 12 tribus d'Israël. Il est dit aussi que cette ville était construite et fondée sur 12 fondements qui sont les 12 apôtres. 12 portes. Donc si Dieu, à la fin de la Bible, parle de portes qui ne forment qu'une seule perle, c'est que ça a une signification importante pour lui. Maintenant, notre porte. Je vous laisse la question ouverte à vous. Ce n'est pas à moi que vous devez répondre, c'est au Seigneur. Dans quel état elle est ? Je vous pose simplement cette question-là. Dans quel état elle est ? Est-elle une porte comme le Seigneur veut, comme lui-même il est ? Une porte prêt à aimer, prêt à donner sa vie, prêt à pratiquer la justice, prêt à pratiquer la fidélité ? prêt à donner sa vie? Ou est-ce que nous sommes une porte qui, au courant des vents, comme dans Proverbe, se bascule, laisse rentrer ceux qui sont? Je vous laisse la question. C'était ce que je voulais vous apporter ce matin. Ne repartez pas abattus. Parce que celui qui construit cette porte-là, c'est Jésus. Et celui qui a entamé cette construction dans vos vies, et qui en prend soin, c'est Jésus. Mais nous avons notre part de responsabilité qui est tout simplement de nous positionner. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande simplement de nous positionner. Vous savez, j'ai lu les témoignages dernièrement de ce qui se passe dans les différents pays musulmans avec les chrétiens. Il faut tenir sa position. Mais serons-nous prêts à tenir notre position jusqu'au bout? Pour simplement une croix pendue à un pare-brise, se retrouver lynché à mort. On n'a pas demandé si tu étais catholique, protestant, ni ceci. Tu avais à un moment une croix. On te balance parce que ton père te balance par-dessus ta fenêtre. Tu as 22 ans parce que tu viens juste de lui dire « J'ai accepté Jésus comme mon Messie ». Ces personnages, je me dis, ont tenu leur position. Mais n'ayons pas peur de ça. Parce que Jésus a dit qu'il était avec nous, qu'il était devant nous, et qu'il nous amènerait et nous porterait dans ces moments difficiles. Il nous donnera les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut. Mais en attendant ces temps qui vont venir, analysons-nous. Et s'il y a besoin de changer, s'il y a besoin, le Seigneur est prêt, par son esprit, à venir remettre l'équilibre, remettre ce qui est la bonne position en lui. Nous allons prier, on va baisser nos têtes. Seigneur, je veux simplement te remercier parce que tu es le plus merveilleux des exemples et le plus parfait. Seigneur, en toute chose, tu as été parfait. Je veux suivre cet exemple, Seigneur, ce matin. Ce matin, Seigneur, tu vois de ce que l'on a pu parler. Et Seigneur, tu vois nos portes à chacun, comme tu les as placées dans nos familles, dans nos travails, dans nos villes, Seigneur. Tu vois ce que nous sommes. Mais Seigneur, c'est toi qui conduis nos vies. Et c'est toi qui fais en sorte que ces portes-là soient ton reflet. Seigneur, que nous ayons tous, tout le temps, en permanence, les yeux rivés sur toi. Seigneur, tu es venu à la croix sans rien dire, sans juger. Seigneur, tu es ressuscité, tu es venu vers tes apôtres, vers tes disciples, tu ne les as pas jugés non plus. Ce n'était pas ton temps. Mais tu les as exhortés, Seigneur, vraiment, exhorte-nous. Dans les paroles qui ont été dites ce matin, Seigneur, que tu replaces l'équilibre, que tu replaces ce qui est vrai, que tu replaces ce qui vient de toi. Et Seigneur, que tes paroles s'imprègnent de nos vies, que tes paroles vraiment rentrent en profondeur et que tu sois notre rocher, vraiment ancré, comme un piton ancré dans un rocher qui ne peut plus bouger. Seigneur, merci parce que tu es ce rocher. Seigneur, remplis-nous maintenant de ta force et de ta puissance pour que nous puissions manifester ta gloire autour de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Amen. C'est parti. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Ces moments, les temps qui arrivent seront les plus difficiles parce que il faudrait que nous tenions notre position. Chacun de nous vraiment s'affirme. Ce n'est pas pour vous alarmer, mais ça se voit, ça se sent que l'étau va se resserrer et que, en tant que chrétien, nous devons nous affirmer. Ma fille Noémie a pris un yaourt à boire d'ici, de l'église, et est allée à l'école. Pour le goûter, elle sort son yaourt et il y avait ses amis musulmans qui qui ont demandé à voir, est-ce que, parce que c'était joli, ils voulaient goûter en fait. Où est-ce que tu as acheté ce yaourt-là? Et elle leur dit, je l'ai acheté à l'église. Et quand ils ont entendu l'église, ils ont dit, non, je ne fais pas ton yaourt là, je ne fais pas ton yaourt. Parce qu'ils ont entendu le mot église. On voyait que l'islam, l'islamisation, c'est vrai que l'islam qui parle d'islam est en train de grandir de plus en plus. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dernièrement encore, en Arabie, dans un pays, voilà, il y a une femme en Arabie Saoudite, je crois, ou bien en Éthiopie, je ne sais plus exactement, mais il y a une femme qui a été condamnée à mort, simplement parce qu'elle ne veut pas renoncer à la religion chrétienne. Parce qu'elle ne veut pas se reconvertir à la religion de ses pères. Et parce qu'elle a accepté Jésus. Et elle a dit, même si vous me condamnez, moi je ne peux pas renoncer, je suis chrétienne. Et ça s'arrêtera là. Elle s'est positionnée. Alléluia. Donc prenons position, comme la parole de Dieu nous dit. Mais il y a une chose qui est importante. La plus importante, c'est la porte de votre cœur. Amen. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Veux-tu accepter Jésus ce matin? Veux-tu donner ton cœur à Jésus? Parce qu'il est à la porte de ton cœur. Merci Seigneur, nous allons passer au service des annonces. Je vais appeler ma soeur Phoebe pour vous donner des annonces.
Amen. Bonjour à tous. Tout à l'heure, après le culte, pour ceux qui peuvent rester, à 13h30, il y aura la distribution du pain.
À 14h30.
On va le chercher à 13h30, donc le temps pour venir, voilà, 45 on va dire. Voilà. On aurait besoin aussi de volontaires pour aller chercher.
C'était déjà.
Pour ceux qui peuvent rester, à 13h45, il y aura la distribution du pain. Pour ceux qui ont prévu de régler les paniers de la semaine prochaine, merci de vous approcher de moi pour régler. Merci. Lundi prochain. Ah, dernière, pardon. Vendredi prochain, de 19h30 à 20h45, il y a la réunion d'études. Toujours. Dimanche prochain, le pasteur ne sera pas là. Parce que du jeudi 22 au dimanche 25 inclus, il sera à Turin pour la convention des églises de réveil d'Europe. Donc de jeudi à dimanche prochain, il ne sera pas parmi nous. Donc prions pour son déplacement et que la convention se passe selon le plan du Seigneur.
Voilà. Et je profite de l'occasion, on ne s'est pas concerté. Voilà. Et c'est l'Église qui a acheté tout ce matériel pour maintenir la propriété dans l'Église. C'est comme chez nous, dans la maison, on fait le ménage. Voilà. Et on range bien le matériel, on prend soin. Donc ça coûtait de l'argent. Ça vient du trésor du Seigneur. On l'a apporté ici parce que nous avons constaté avec regret qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent de l'Église. Alors, on veut tourner cette page maintenant. C'est pour ça. Tout ce que vous voyez là, on a essayé d'étiqueter ça. C'est comme dans la Bible, hein. Voilà, histoire de Jacob. Voilà. On a étiqueté, on a écrit dessus pour que nous ayons la crainte du Seigneur. Il y a des choses qui ont disparu. Alors, je ne vais pas faire la liste ici pour ne culpabiliser personne. Voilà. Mais il faut qu'on parte d'un bon pied maintenant. Donc, quand tu prends le matériel pour faire le ménage, bon, tu le ranges bien. Tu vois, c'est comme les outils. Tu m'en es à Papy Claude, qui connaît bien ça. Quand les outils sont dispersés, bon, après, c'est pas bon. Alors, donc, nous pouvons être sérieux, être capable de la maison du Seigneur. Et on a parlé de porte aussi. Et il y a aussi la porte du ménage.
Amen.
Voilà. Et après, la porte des brebis. Parce que quand je prends soin du ménage, voilà, je prépare aussi la porte des brebis. Parce que quand le bébé entre comme ça, c'est bien. C'est comme il y a cette soeur de bébé congolaise et puis d'autres. Mais moi, j'ai vu la soeur. Hein. Mais elle était très dynamique. Elle t'a ciré ici, là. Elle a placé les chaises. Et c'était impeccable. Je dis, waouh. Alors, comme ça, c'est des exemples. Donc, s'il vous plaît, on va continuer à pouvoir aux besoins de l'Église. Voilà, pour que rien ne manque. Donc nous prions que nous puissions aussi acheter un aspirateur qui tient la route, mais prions surtout pour acquérir pour du matériel professionnel. Moi j'ai vu à la région là où je travaille, attends, le matériel c'est pas n'importe quoi, on dirait que c'est nos impôts. Bon, d'accord. Voilà, en tout cas c'est des choses qui sont qui durent. C'est pas un truc que tu prends, et deux jours après, bon, c'est cassé, c'est pas bien. Alors, donc, c'est un début. Voilà. Donc, faisons l'effort. Et notre sœur Rosa, tu peux te tenir debout. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Donc, c'est elle qui s'occupera. Parce que moi, je ne veux pas être un pasteur factotum, hein, aller partout faire le coup, ça, partout. Non, c'est pas mon travail. Mais pour un début, on peut faire certaines choses. Donc c'est elle qui va aussi être gardienne pour ce matériel. Oui.
Bonjour. Alors, je vais appeler Indy. La Espérance qui n'est pas là aujourd'hui. Et je vais appeler Élise. S'il te plaît.
Je
vais prendre.
Après,
j'arrive.
On va attendre. Et pendant que l'autre arrive, je serai absent successivement le dimanche prochain et l'autre dimanche aussi. Parce que je serai à Paris pour la consécration de deux pasteurs dans l'œuvre ici. En France.
Merci. Élise, s'il te plaît. Comme vous savez, j'ai été élue attendante dimanche dernier. Donc voilà, j'ai formé mon équipe. Dans mon équipe, il y a Émilie, Élise et Espérance, qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, on est une équipe de choc et on est prévu pour un an, par la grâce de Dieu. Alors, attendant, il y aura tout ce qui est en lien avec le ménage et puis tout ce qui contribue à l'église, tout ce qui manque à l'église, tout ce qui est défectueux. On est des bricoleuses aussi. Voilà. Donc, on va finir l'équipe de choc.
Est-ce qu'on peut, on va prier pour cette équipe-là, alléluia. C'est merveilleux. Voilà. Voilà. C'est les levites du Seigneur.
On se tient tous debout. Alléluia. C'est une joie quand le Seigneur amène des ouvriers dans sa moisson.
Amen.
Voilà. Parce que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc, nous prions ensemble et puis après, Edgar va conclure. Ça te va comme ça? Voilà. Ah, voilà. Voilà.
Edgar, tu peux venir s'il te plaît, grand frère.
Viens. Nous prions ensemble.
Viens.
C'est important. La prière va toucher jusqu'à là-bas.
D'accord. Mais viens.
C'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus, c'est une belle chose de servir Jésus. Marcher dans la
Amen. Notre Père qui est dans les cieux, je ne suis plus d'avant pour ça. Seigneur, merci parce que tu as pourvu, Seigneur, au matin, Seigneur, pour que le ménage de ta maison soit impeccable, Seigneur. Seigneur, nous voulons que ça soit une symbolique. Mais au travers de cela aussi, nous prions pour tout le matériel, Seigneur. Que ce soit la sonorisation, Seigneur, tout ce qui est ici, Seigneur, dans cette maison, les chaises, Seigneur, etc. Nous prions que l'onction de Dieu, Seigneur, soit sur ton matériel, ô Jésus. Et qu'il n'y ait pas de perte ni de fuite, Seigneur. Nous ne voulons pas donner l'occasion à l'ennemi de nous éclabousser, Seigneur, par quoi que ce soit. Nous prions maintenant pour les frères et pour les sœurs, ensemble.
Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour...
Merci pour l'équipe qui est là, Seigneur. Un an, Seigneur, comme ça a été dit par notre sœur. Nous tous ensemble, Seigneur, pour les entourer, Seigneur Jésus. Seigneur, parce que le ménage, parfois, on peut être... Quoi qu'on dise, Seigneur, existe toi-même, tu fais le ménage, Seigneur. Lorsque tu envoies la neige, la pluie, pour prendre soin de l'univers entier, Seigneur, tu aimes la propriété, oh Jésus. Et Seigneur, elles veulent t'imiter, Seigneur, dans la propriété, Seigneur, de ta maison. Seigneur, oins-les pour le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que la gloire de Dieu, Seigneur, descende dans leur vie, Seigneur. Et que le plan, Seigneur, ce plan majeur qui sera mis sur pied, Seigneur, pour l'entretien, Seigneur, de ta maison, Seigneur, Seigneur, soit suivi, oh Jésus, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Seigneur, etc. Et te louons, Jésus. Et nous te bénissons. Pour ce genre,
Seigneur, nous te bénissons, c'est vrai. Parce que tu es celui qui, dans sa grâce, Seigneur, nous donne la capacité, Seigneur, d'apporter les choses. Et là, tu vois, ce matin, nous voulons te présenter nos soeurs, tu vois, dans la présentation qui a été faite. Te bénissons parce que tu nous donnes une vraie équipe de séries propres au fond d'eau.
Amen.
Amen. Seigneur, plus sérieusement, nous voulons les bénir, que ta grâce les accompagne dans l'engagement qu'elles ont pris et que véritablement ta force soit renouvelée en elles et qu'elles fassent ces choses avec bon cœur, Seigneur. Amen. Comme pour toi, Seigneur, que ton nom soit béni.
Amen. Amen.
Alléluia! C'est merveilleux. Comment est-on en fait aussi bon pour faire le ménage? Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Le ménage du Seigneur, c'est la maison de Dieu, c'est la maison la plus belle. Elle doit être plus belle que chez nous, plus propre que chez nous-mêmes. Alléluia! Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! On va conclure, le temps est avancé, on va conclure, on va... prier. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Merci. Merci, pasteur. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? D'accord. Non. Personne pour la première fois. D'accord. Bon, ben, écoutez, très bien. On est en famille. On va se tenir debout. Au niveau des annonces, il y a aussi donc l'étude publique, le frère Gars qui continue son étude le vendredi prochain, donc à partir de 19h30. Soyons là pour écouter le message que le frère Gars va délivrer encore. C'est un enseignement. Donc on apprend beaucoup de choses, venez avec vos notes, venez avec plutôt un cahier et de quoi prendre notes, et vos bibles pour pouvoir apprendre. Donc c'est très important, ne désertons pas ces réunions en semaine. Vendredi à 19h30, soyons là. 19h à 20h45, donc réunion d'études publiques avec le frère Gare pour ce vendredi. On va prier. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Pasteur Lebert, est-ce que tu peux prier pour remettre ce moment, la fin de ce culte entre le main de Dieu et notre semaine?
Notre Père qui est dans les cieux, Seigneur, merci. Toi qui es la porte, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé de la porte, Seigneur, que toi-même tu es Jésus. Et tu nous as ouvert cette porte aussi que tu es pour entrer au ciel, Seigneur. Oh Seigneur, je te remercie de nous encourager et que tu nous envoies encore cette semaine aussi vers d'autres personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore perçu cette porte que tu es, Seigneur. Si nous voulons bénir encore la vie de Villeurbanne, de Lyon, Seigneur, et bénir aussi notre semaine de travail, oh Jésus. Seigneur, tu vas encore nous encourager à travailler, Seigneur Jésus. Que ce soit dans le monde séculier, que ce soit pour ton œuvre ici, Seigneur, encourage chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous te louons ensemble et nous bénissons ton nom. Amen.
Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Et que, à très très vite.
Bonjour toi. Viens, bisous là. Voilà. Tonton, je prie.
Il a collé mon code.